Bonjour à tous, chers auditeurs. Il est 10h à la pendule de Radio Canu et comme tous les dimanches, de 10h à midi désormais, c'est l'émission Musique, etc. qui commence. Musique, etc. Une émission musicale de Radio Canu. De 11 à 12, je recevrai le rappeur Altes. Mais pour le moment, dans la première heure, la première partie de l'émission, j'ai dans le studio les trois membres du groupe de Scratching Spitfire. Donc, de ma gauche à ma droite, il y a Gitz qui est à la basse et au chant. Il y a Greg qui est à la guitare, qui fait le backing. Et donc, Gérald qui est à la guitare et au chant. Donc, les The Scratching Spitfire, bienvenue à Radio Canu.
Merci.
Alors,
merci.
Donc vous venez nous présenter, je crois, vous avez déjà sorti un EP, mais c'est votre premier album, je crois, qui est à sortir. Alors peut-être, on va partir du postulat que les gens ne vous connaissent pas, peut-être présenter le projet The Scratching Spitfire, voilà. Merci. Quel type de musique vous faites
Alors on est un groupe donc de Lyon, on s'est formé il y a à peu près 3-4 ans,
ouais.
Et on vient de sortir notre premier album qui s'appelle Brace for Impact, qui est autoproduit et qu'on a enregistré à l'épicerie moderne avec Bruno Germain, voilà.
Ouais, c'est du punk rock mélo, punk rock and roll.
Ouais, tout à fait, avec des influences qui sont, on va dire les influences communes qui sont type The Hives, NoFX,
Rancid. Et ouais, c'est assez large en fait. On a quand même tous des influences, alors des trucs en commun et puis des choses qui partent un peu plus à droite à gauche. C'est-à-dire que moi par exemple, je suis pas très très métal, vous un peu plus. Ouais, ça peut aller un petit peu plus. Élargir un petit peu certains trucs, quoi.
Parce que vous disiez aussi, il y a un côté quand même très mélodique, non, ouais. C'est pas du punk.
Non, voilà, c'est pas du punk hardcore. Moi, je suis plus. Mes influences, c'est plus la scène punk, rock'n'roll, garage, et donc des choses mélodiques. Vous aussi, enfin, il n'y a pas que moi, mais disons que ouais, je pense que ça, c'est quand même un truc qui ressort quand même souvent.
Moi, tout à fait. Après nous,
de la mélodie, mais faut que ça pousse quand même.
Par contre, ça avance.
C'est un peu l'idée.
Faut que ça aille vite. faut que ça aille vite et fort. Mais oui, que ça soit mélodique, quoi, c'est le principal pour nous en fait. Après, il y a des questions qu'on se pose pas des masses quand on.
Non, oui, c'est vrai, pas
quand on trouve des idées, voilà, où on fait des choses que ça sonne comme tel groupe, où on s'en fout un peu en fait.
On se pose peu de questions, oui, au final.
On s'en pose peut-être pas assez d'ailleurs.
vous faites votre truc.
Ouais, on fait notre truc. Donc, contrairement à pas mal de. Enfin, contrairement. On pose des solos de guitare, par exemple, sur nos morceaux, ce qui n'est pas forcément l'attrait principal des groupes qu'on écoute à titre collectif, quoi. On a deux chanteurs lead. Enfin voilà,
à noter ça, on peut en parler, vous êtes deux à chanter, donc.
Ouais. Bah en fait, c'est.
J'ai une sorte de dualité, une sorte de concurrence qui dit pas son nom.
Du coup, on va l'entendre, mais ça soit vous chantez ensemble, de façon alternée, chacun son morceau.
Ça dépend un peu des morceaux, en fait. Il y a des morceaux, souvent quand même celui qui amène le texte, qui amène un peu le truc, un peu le chant lead, mais j'ai l'impression que plus on avance et plus on s'aperçoit qu'on construit les morceaux de manière à avoir les deux voix directes.
Tous les refrains maintenant on les chante à deux,
ça devient du scandé presque à deux chants lead. Parce qu'en fait les retours qu'on a eu c'était que c'était hyper complémentaire et que du coup ça donnait un espèce de truc quand tu nous regardes en face que voilà ça pousse un peu au cul quoi d'avoir les deux voix qui balancent quoi donc voilà c'est plutôt cool et ça se complète bien visiblement les deux voix donc
puis s'il y en a un qui chante plus que l'autre il y a forcément voilà, le deuxième qui va brailler un peu plus parce qu'il est pas content, il a pas son quart d'heure.
Peut-être j'ai le droit d'exister, d'accord.
Bien.
Si vous voulez, je vous propose qu'on écoute un premier morceau pour que les auditeurs voient à quoi ressemble votre musique. Donc on va écouter le deuxième titre de votre album à sortir, c'est le titre Dirty Serenade. Dirty Serenade avec l'accent. Et donc je rappelle, c'est The Scratching Spitfire, c'est sur Radio Canu. On écoute donc, je te laisse redire le titre.
Dirty Serenade. Try
The Crashing Spitfires dans musique, etc. sur Radio Canu avec le deuxième titre de leur album Bridge for Impact. Et donc c'est le titre Dirty Sound.
Ouais.
Vous moquez pas. Vous voulez évoquer ce morceau
C'est un des morceaux qu'on a écrit il y a déjà un petit moment. En fait, c'est un peu ce qui a lancé le groupe quand même. C'est-à-dire qu'on était au départ sur un groupe de. On faisait de la reprise, on faisait que des covers. Et le but c'était plutôt de se marrer et de boire des bières en répète. Entre potes, parce qu'on avait tous un peu des projets à côté.
Donc objectif qui était atteint d'ailleurs.
Ouais,
on a bien en fait.
Et du coup, en fait, on a fait un concert. C'était au blog.
Oui.
Je me rappelle pas combien de temps, mais où vraiment ça s'est super bien passé. Moi, j'ai vraiment eu sur le moment pendant le concert une espèce de super ressenti. Non mais c'est vrai, on sentait vraiment qu'on était. Bon, il y a pas Benjamin là, il va falloir qu'on en parle d'ailleurs. Benjamin quand même, on lui fait un petit coucou. Et il y a vraiment une cohésion entre les quatre. Et du coup, moi je me suis dit putain, faut qu'on essaie de faire des trucs un peu plus poussés, compo et tout. Et c'est Gérald qui nous a trouvé une date. Il est revenu en disant ouais, j'ai trouvé une date à Villefranche, super cool. Et tout. Alors que nous on était super contents. Et puis il fait ouais, par contre, bon ben le mec il prend que des groupes qui font des compos quoi.
J'ai dit oui du coup.
Ouais. c'est dans 3 mois.
Oui, on avait deux compos en chantier, pas fini. Et du coup, en fait, ça nous a mis vachement la presse, mais on s'y est mis. On s'est foutu un week-end aussi au brise-glace. On allait se faire un week-end de répète au brise-glace pour bosser les compos. En fait, ça nous a vachement botté les miches, quoi. Du coup, ça a un petit peu démarré le truc. Et là, Dirty Serenade, c'est le numéro 2 de l'album, celle qu'on a voulu mettre un peu en avant, entre guillemets. Parce qu'on on est sur un projet de clip, là. On va, je pense, début d'année, essayer de se trouver un moment pour faire un clip sur Dirty Serenade, quoi.
Donc, c'est. Et la chanson parle de quoi ?
Ça parle de. C'est plutôt orienté en dessous de la ceinture, quand même, celle-là.
C'est la seule, hein ?
Ouais, non, c'est pas la seule. C'est pas la seule.
Mais qui a écrit le texte ?
C'est moi.
D'accord.
Ouais.
Donc, Gintz.
Ouais, ça parle du côté. De l'intensité qu'il peut y avoir dans ces rapports. Homme-femme, homme-homme, femme-femme, ce que vous voulez. Et que des fois, en fait, voilà, c'est juste l'intensité qui compte.
Et donc, oui, je reviens sur ce que vous disiez. Donc, en 3 mois, parce que vous aviez un concert où, en fait, vous avez aligné, vous avez fait plein de compos.
Ouais, on a fait un set. Il y avait 2 reprises.
On a fait une dizaine de compos.
10 morceaux en 3 mois.
En 3-4 mois, 4 mois.
D'accord.
En fait, on avait commencé, et c'était l'objectif, était effectivement de passer tranquillement d'un set de cover à un set de compos. Mais on s'était dit qu'on allait faire ça calmement et voilà, donc on a eu un petit peu plus de pression que ce qu'on voulait, mais c'était très bien parce que ça nous a permis un peu de monter un set sur lequel on a pu faire évoluer, mais ça
c'était à l'origine du groupe, parce que enfin c'est tous les titres sur, c'est pas tous les titres de l'album, non,
une grande partie,
il y a un EP aussi,
sur l'EP c'est enregistré plus
c'était du home studio,
bah là va comme je te pousse, parce qu'on s'est quand même on a beaucoup bossé, notamment Greg. C'est Greg qui a fait tout le mixage et tout, qui s'est bien bien galéré, surtout qu'on était exigeant, enfin moi surtout.
Ça on peut en parler. Hein.
Bah surtout quand t'as pas d'expérience en la matière.
Ouais, c'est ça. Et du coup ça on a enregistré ça à la maison, quoi. C'était un truc on a enregistré vraiment ça à la maison et tout. Et donc il y a les morceaux de l'EP sont aussi sur le sur la
barre, vous avez
mais réenregistré, quoi.
Ouais, oui. Et donc ce disque là, Brace for Impact,
ouais.
Ouais, pardon. Vous l'avez enregistré où?
Bah avec Bruno, qui est sondier à l'épicerie moderne, en fait, qui fait des enregistrements à côté. Il a un home studio, enfin bon là, il fait pas mal de trucs comme ça, il enregistre beaucoup beaucoup de groupes. Et donc moi je le connais, en fait j'ai joué avec lui dans un groupe auparavant, deux groupes même différents. Et donc c'était un bon moyen d'avoir un bon un mec qui sait faire, qui a du matos, qui est dans ce style aussi musical, quoi.
Et j'ai mangé ma question. Donc on va écouter une chanson.
Ça marche.
Et donc on va écouter la 5e chanson du disque qui s'appelle Last Night.
Last Night, ouais.
Et donc je rappelle que c'est The Crashing Spitfires. On écoute Last Night.
So many troubles, as you say, just because of him.
many miracles as you wish, thanks to his will.
Crashing Spitfires sur Radio Canu, et donc avec la chanson Last Night, on évoque cette chanson, les Crashing Spitfires.
Ouais, c'est à toi.
Alors, on l'évoque vite fait. Hein.
Pourquoi, c'est
une chanson, là, c'est incroyable. Ça, finalement, ça parle de ta relation avec, avec Dieu, mais peut-être avec le dogme en général, en fait. Après, c'est compliqué de développer. Là,
dimanche matin. Non,
c'est dimanche matin, tout ça. Et en gros, on peut faire du punk rock et parfois réfléchir entre deux répètes, mais parfois.
C'est du punk rock existentialiste, un peu métaphysique même. Ou...
Et, mais peut-être tu as raison. Je n'avais pas vu ça comme ça, je me sens plus grand maintenant. Mais voilà.
D'accord, ça parle de ça. Et donc, ouais, c'est ce que. Et les morceaux, comment vous travaillez pour les mettre en place? Donc, il y a deux voix, vous avez expliqué un peu. Il y en a,
ouais,
y a,
bah c'est là, soit... celle-là, du coup, justement, c'est un bon exemple de. Elle est plus récente, quand même, celle-là, que les autres, enfin, que Dirty Serenade notamment. Et là, typiquement, sur les refrains et tout, il y a vachement plus de voix mélangées et tout. Donc, il n'y a pas de. Enfin, il n'y a pas de calcul non plus. On n'est pas.
Non.
Franchement, il y en a un qui a une idée ou un plan, il le propose. On lui dit que c'est nul, il dit allez sérieux, on lui dit en fait c'est bien. Et puis après, non mais blague à part, sérieusement chacun amène son, chacun amène son truc.
En général, vous partez d'un, d'un bout de texte, d'un riff.
Ouais, ça, c'est hyper variable. Il y a, plusieurs choses différentes. Il amène. T'amènes souvent des trucs un peu plus ficelés, mais c'est souvent enregistré juste guitare sèche et voix.
Ouais. Couplet refrain, guitare sèche.
Couplet refrain, machin. Et là, du coup, ça brode à mort. Et là, en général, c'est Mister Arrangement, c'est plutôt Greg quand même, qui rajoute des parties qui a tendance à être.
La caution musicale.
Ouais, c'est ça. Voilà. C'est plutôt, comme ça. Et puis avec Greg, on travaille plutôt plus tous les deux. Sur des riffs, des trucs comme ça. Donc on construit des choses un peu plus tous les deux, mais ça arrive aussi que ça fonctionne aussi avec avec un morceau qui est plus abouti dès le départ. C'est hyper variable, il y a vraiment pas, mais ça part sur, mais ça peut partir sur des riffs, sur des paroles partout.
Ouais, et d'une manière générale, on a quand même Ben, notre batteur, qui arrive et qui pousse tout. Voilà, donc on peut faire un morceau
Faut qu'on parle de Benjamin, du coup, là.
C'est le quatrième membre,
qui nous manque beaucoup, là, aujourd'hui. Je pense que ça aurait été super cool qu'il soit là. Bon, il peut pas, voilà, c'était compliqué pour lui. Il habite à Montpellier, en fait. C'est un peu son seul défaut.
Il y en a d'autres.
Il y en a d'autres. Mais.
Non, on lui fait un gros bisou, là.
Voilà, donc en fait, voilà, lui a des influences qui sont plutôt métal. Et généralement, il arrive. Et puis, il envoie quand même plutôt pas mal derrière, quoi.
Ça pour envoyer, oui, il envoie fort.
Donc, il y a quelques morceaux sur lesquels il
amène vachement de choses.
Les rythmes, voilà, donc c'est.
Il amène vachement de choses, un peu comme Greg, mais différemment, mais il amène vachement de choses aussi sur les parties de batterie. Maintenant, c'est vrai que, du coup, on travaille un petit peu plus à distance maintenant. Ça fait quoi, un an et demi qu'il est sur Montpellier, qu'il est redescendu sur Montpellier.
On ne désespère pas de le faire remonter.
Non, en fait, on s'est dit que ça marchait. On tenait tellement à ce truc tous les quatre qu'on faisait la concession de dire, voilà, on répétera moins, on fera peut-être moins de concerts, trucs comme ça, mais il sera là. On préfère, en fait. Donc on a commencé à expérimenter un peu les répétitions à distance, c'est-à-dire qu'on enregistre des trucs, on lui balance, il a sa batterie sur Montpellier, il nous renvoie des trucs. Enfin, voilà, c'est.
Alors on a fait une release party pour l'album Rock and Eat, à Vez. Et donc par exemple pour cette release party on a fait de nouveaux morceaux qui sont pas sur Brace et on les a fait de manière assez efficace parce qu'on a bossé les structures en répète à trois, on a retravaillé les mélodies à deux, on a envoyé tout ça à Ben, il a travaillé de son côté et puis après on a mis en commun
il a capté direct les trucs, il a fait des propositions, il avait été avec nous les répètes d'avant.
Il a un niveau qui lui permet ça en fait, c'est-à-dire qu'il digère, il absorbe et il est arrivé.
Pas trop le flatter non plus parce que
il avait déjà la grosse tête plus loin.
C'est vrai qu'on fait pas non plus du jazz progressif, donc. Je veux dire, tout ce que je regrette,
personnellement, mais vous êtes pas prêts.
Bah oui, mais qu'est-ce que.
Bon. Non, ouais, donc voilà. Benji amène aussi beaucoup de choses et de l'énergie et des
bières.
Donc, non, mais ça compte. Ouais. Ça compte.
Bien sûr.
Après, ouais, enfin, vous disiez, donc, pour le concert, vous aviez 3 mois pour faire plein de compos, mais en général, un morceau, en moyenne, du premier jet jusqu'au morceau final, ça vous prend combien de temps,
les scratchings, Spitfire? C'est hyper variable, en fait. Enfin, je pense que Gérald, ça doit être pareil, mais moi, je dois avoir, quinzaine d'ébauches de morceaux sur mon ordi avec des trucs qui sont plus ou moins finis, des trucs qui verront jamais le jour. Et du coup, régulièrement, j'en repropose. Je dis, voilà, j'en balance deux. Je dis, ouais, donc on essaie de bosser un truc. Il y a des fois où ça marche direct. Les deux dernières, notamment là, Wasteland et Good Intention qu'on fera sortir une autre fois, je pense. Elles sont sorties super vite. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus longues à sortir. Et j'ai pas forcément d'explication là-dessus.
Après on les retravaille, mais je veux dire d'une manière générale ça va assez vite quand même.
Ouais, mais entre le moment où il y en a un, nous trois qui commence à pondre un truc et le moment où ça sort vraiment, ça peut être long parce qu'encore une fois, voilà, on n'est pas. On répète une fois par semaine, on a nos boulots à côté, donc forcément, c'est notre petit rythme à nous, quoi.
Ok, je vous propose d'écouter un troisième morceau, donc c'est le morceau qui s'appelle Cold Blooded Killer. Et donc c'est The Crashing Spitfire sur Radio Canu.
What
The Crashing Spitfires avec le morceau
Cold Blood Killer.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce morceau?
Ça parle de, on est un peu à l'opposé des donjons, mais c'est le même genre de truc. C'est des nanas qui, ça parle encore en dessous de la ceinture. Ouais.
C'est un texte de Gitch.
Ouais.
Non, on veut pas vendre la mèche, mais il y a que lui qui écrit ce genre de truc.
Non. Attends. Non, bref. C'est,
par contre, juste, là, je te coupe, parce que simplement, ouais. The Crashing Spitfire, c'est pas du yaourt, hein, donc les textes sont écrits.
Non, c'est tout. Alors, il y a des fois, on chante en yaourt, quand même. On a connu un peu les textes de l'autre, quand même, relativement tard, quand on a enregistré l'album, quand même. Non, j'exagère un peu, mais il y a un peu de ça, quand même, au départ. Ouais. On pratique vachement le yaourt, quand même.
Bah, après, sur ce qu'on a écouté depuis le début, les anglophones peuvent entendre.
Ah, ouais, non, normalement, c'est. Mais
je t'ai coupé, pardon.
Non, non, mais du coup, vas-y.
Au début on part souvent sur du yaourt pour trouver justement la mélodie qui va bien et le nombre de pieds, et puis après Guide s'écrit des textes en dessous de la ceinture. Voilà, généralement c'est comme ça que ça se passe, et je pose des questions.
C'est même pas vrai.
Voilà, et moi je fais ce que je peux avec Ben. Voilà.
Il cadre.
Non, parce que là en plus c'est même pas une question en dessous de la ceinture, c'est des histoires de des nanas comme des mecs d'ailleurs qui sont à enchaîner un peu les relations, et puis laisser leurs ex sur le carreau. Voilà, c'est même pas une question de cul, en fait, c'est juste dans le relationnel.
Après on peut parler de sexualité, mais il faut pas que ça soit sur un registre sexiste, c'est tout.
Ah non, mais en plus voilà, justement là
on parle de sentiments, là, attention.
Ah oui,
c'est ça.
Existentialiste et romantique. Crashing Spitfires.
Et on part sur la voie, ce que j'ai dit tout à l'heure.
Pourquoi ça fait marrer tout le monde?
Non, mais c'est. Quand on aborde des thèmes comme tu as abordé dans la chanson précédente, on a parlé du studio, mais peut-être expliquer comment vous avez travaillé en studio concrètement.
Bah alors ça c'était assez cool. Alors on a eu des gros débats là-dessus sur le comment on faisait piste par piste, pas piste par piste et tout. Sachant que comme on est en autoprod, on n'avait quand même pas des moyens illimités. Et donc en fait Bruno on a fait du coup des prises live basse, batterie et une guitare. Donc ça nous permet peut-être de conserver un petit peu le côté péchu du live. J'avais un peu peur de ça, j'avais un peu peur de perdre la pêche au piste par piste. Et donc on a fait ça, et après on a rajouté donc voix, mais on a gardé du coup cette espèce de noyau live. Que je trouve assez cool, qui nous a permis de gagner vachement de temps en fait, parce que s'il faut tout faire piste par piste en fait, là en gros on a enregistré en 4 jours et demi, chose comme ça, si on cumule tout. La base des morceaux en 2 jours, et puis après voilà, des soirées au home studio de Bruno pour les re-re de guitare, le machin. On a réampé la basse aussi, c'est un système que je connaissais pas. En fait, pour enregistrer la batterie dans les meilleures conditions possibles, il m'a balancé la basse dans la table de mixage direct. Moi, je l'entendais dans le casque, mais elle n'était pas captée par les micros de la batterie.
D'accord.
Et ensuite, on a balancé ce que j'ai enregistré sur la table, on l'a rebalancé dans mon ampli pour réenregistrer en sortie d'ampli. D'accord. Donc en fait, on a quand même le son de mon ampli, mais sans l'avoir en même temps que la batterie, quoi.
Donc, comme je te disais, on est quand même assez calé en technique.
c'est quoi vous appelez les amplis, c'est ça?
Je ne sais pas. Du coup là, ça nous a permis de gagner du temps et d'être efficace.
Ouais. Et donc il y a 12 titres sur l'album.
Il y a 12 titres, et dans les 12 il y a une intro.
Et on va dire qu'il y a 11 titres.
Qui est superbe, mais qui est pas un morceau
qui est magnifique. Donc une intro et 11 titres. Donc,
c'est ça.
Et donc l'album s'appelle
Brace for Impact.
Ce qui signifie
prépare-toi à l'impact. Brace, c'est le comment dire, le signal dans les avions quand ça risque de s'écraser. Brace, il faut se mettre en position de protection. Donc c'est voilà. Accroche-toi pour l'impact. Prépare-toi à l'impact.
Et en fait, comme vous êtes parti plutôt sur un travail de scène, quand on vous demande d'enregistrer, vous êtes content ou non? Et puis le fait de fixer des morceaux, vous êtes heureux ou alors un peu
Oui, parce que on peut faire aussi là ce qu'on a fait, notamment pour les voix, c'est que on arrive à mettre plusieurs couches. Et juste, en plus. Mais on arrive à poser plusieurs voix, plusieurs backings pour faire des chœurs qui sont un petit peu plus un petit peu plus imposant, on va dire, ouais. Et qu'on n'arrive pas forcément, évidemment, à reproduire sur scène en tant que tel.
Ouais, parce qu'on est, ça, c'est pareil, on ça, a été un, ça a été un débat aussi. Moi, j'étais pas forcément chaud au départ de dire on fait des trucs très différents, enfin très différents. On travaille l'album différemment de ce qu'on peut faire en live. Moi, j'étais parti, mon état d'esprit, c'était plutôt le truc ouais, un peu punk rock garage, dire on fait sur l'album ce qu'on peut faire sur scène, on change pas d'un iota. Et Greg est pas du tout dans cette ouais. cette
Moi, j'étais plus parti sur justement faire des choses un maximum différentes, avec beaucoup de guitares, beaucoup de voix, beaucoup d'effets autres, qu'on veut pas refaire sur scène, mais à partir du moment où on enregistre un album et qui reste gravé, on va dire, et ben autant en profiter pour justement avoir ce côté un petit peu too much, quoi.
Ouais.
Et puis la scène c'est autre chose après.
Mais c'est complémentaire, c'est hyper complémentaire, ouais, en fait,
ça donne une autre couleur au morceau, quoi.
Ça impose d'aller beaucoup plus loin dans le détail sur la scène. Je vais être un peu, on peut s'en sortir à l'énergie quand on enregistre. Ça impose des choses, ça impose de gratter, ça impose de chercher. Ouais, mais du coup, ça, quand on retourne sur scène après,
finalement, voilà, je me suis laissé convaincre et j'ai trouvé ça. Ça me fait chier de le dire, mais ils avaient raison, quoi.
Bon, on n'est pas allé bien loin. C'est-à-dire qu'on reste même très live.
Mais on a rajouté quand même sur deux morceaux du clavier. On s'est dit. On se fermait pas la porte non plus à enregistrer un de ces quatre, ou faire, en tout cas, bosser un set un peu acoustique en bossant avec d'autres instruments, des trucs comme ça. Et finalement, je trouve cette approche assez cool, quoi.
Ouais. Alors après, c'est vrai qu'au niveau du mix, après, c'est plus Bruno qui Bruno qui a eu quelques sueurs. Mais non, le but pour nous était quand même de faire quelque chose, d'avoir une approche différente en studio qu'on peut l'avoir sur scène.
C'est creuser un peu, ouais.
Mais comme disait Gérald, deux démarches, mais complémentaires, quoi,
complètement.
Qui se nourrissent l'une l'autre, quoi. Je propose qu'on écoute un autre titre. Ouais. Donc là, c'est My Favorite Game.
Bah tiens, il y a du clavier d'ailleurs. C'est bien amené.
Alors, ouais.
Et donc, c'est dans un style un petit peu différent.
Ouais.
Et donc, c'est The Crashing Spitfire sur Radio Canu. On écoute.
Dressed while working, you said, I wanna play with you. Skinny jean, thin and curls and black hair, you said, I wanna play with you. Good mood behind the bar, seven fat drags, you said, I wanna play with you.
The Crashing Spitfires sur Radio Canu dans musique, etc. Donc c'est la chanson
My Favorite Game,
extraite donc de votre album
Brace for Impact.
Vous voulez dire un mot sur ce titre là qui en est, je vous disais, un de mes préférés aussi parmi, enfin parmi d'autres.
Merci.
Ouais. C'est gentil. C'est une chanson qui est un peu à part parce qu'elle est pas sur le même tempo que les autres, ça tabasse pas.
Ouais. Ça fait du bien de temps en temps.
Pour autant, il y a quand même un sujet récurrent qui revient dans les textes. Voilà. C'est sur quoi finalement? C'est sur cette sorte de passion, de la séduction peut-être. Après, il y a quand même un tabou qu'il faut tomber. La musique, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus important. Pourquoi à la base on se met à faire de la musique? On va prendre la guitare, ça fait mal aux doigts, c'est ingrat. C'est pour les filles. Et alors, voilà, c'est l'opportunité quand on est en concert un peu d'avoir une chanson un peu langoureuse. Ça met une saveur au milieu du set, quoi.
Ouais. Non, mais ce que je te disais quand ça passait, ça permet aussi de se poser un tout petit peu pendant les concerts. Voilà, parce que
c'est pas la motivation principale, mais c'est vrai que ça permet.
Ça marche quand même.
Ça doit faire une ponctuation dans le concert, voilà.
Ouais, c'est ça. On se voyait pas. Non, puis on est en train d'envisager, voilà, de poursuivre un peu dans cette voie-là, de rajouter un peu des morceaux plus mid-tempo et tout, parce que ça nous plaît aussi, quoi. On n'est pas. En fait, on s'interdit rien jusqu'à maintenant. On a vraiment essayé de pas se mettre de contraintes. Mais certains groupes dans lesquels j'ai pu jouer où il y avait vachement de contraintes de dire on se fait tel truc et tout.
Tu as des problèmes.
Mais non, mais c'est. Et du coup, là, en fait, c'est l'inverse et je trouve que c'est plutôt cool. Alors après, effectivement, il y a des fois où on se dit, bah non, là, ça va pas. Avec Greg, on a tenté des compos, finalement, on s'est dit non, que ça le faisait pas.
Oui.
Qu'on voulait pas aller faire progresser plus, quoi.
Non, et puis au-delà de ça, il nous plaisait pas forcément.
Non, voilà,
comme ça, à nous.
Mais du coup, ouais, en fait, il y a rien d'interdit dans ce qu'on.
On fait ce qu'on peut, surtout. Ouais. Ouais. On fait ce qu'on... Mais avec le fait d'avoir des morceaux un peu plus mid-tempo, ça permet aussi d'apporter une autre dynamique au set et de pas commencer pied au plancher pour finir pied au plancher, pas forcément dans le mur, mais donc voilà, des morceaux comme ça et des morceaux un peu plus lourds aussi, c'est ce qu'on est en train de travailler en ce moment.
Voilà. Et du coup, pas que des morceaux en dessous de la ceinture, parce que les deux nouveaux sont. Ouais.
Celui-ci, c'était un petit peu. C'était aussi le cas.
Hein. Tu vois,
dis-moi. J'assume. C'est cool.
Oui, pendant que j'y pense, il faut peut-être évoquer. Donc les auditeurs peuvent pas la voir, mais il y a la pochette. La pochette est superbe.
Ah
quoi.
Oui, mortelle. Ouais, ça c'est Thomas Myriel. Son Instagram, c'est Thomas Visual Addiction. Faut aller. Franchement, faut aller voir ce qu'il fait. C'est super et c'est un petit peu dans le même esprit que Bruno qui nous a enregistré l'album. C'est que c'est quelqu'un qui fait ça pas pour gagner sa vie. Les tarifs sont très très concurrentiels et il fait ça parce qu'il kiffe, parce que il aime bien faire des trucs pour les groupes comme ça. Il fait beaucoup de d'artwork pour les Hellbats. Je sais pas si c'est un groupe qui. Voilà. Bref,
je connais pas tout, mais
donc c'est vraiment, il a fait un super truc. En un temps relativement rapide, ouais. Enfin, c'est super. On est vraiment super contents. C'était au-delà de nos espérances, clairement. Mmh. Moi, je le connais aussi. Je le connaissais d'avant et je l'ai proposé aux autres. Moi, je savais que j'aimais bien son boulot. Les autres ont regardé son taf sur les réseaux et tout. Mais on savait pas trop ce qu'il allait nous pondre. Il nous a fait trois ou quatre petits croquis un peu de ce qu'il avait en tête. Une fois qu'on lui avait fait passer les musiques, les paroles et tout, et enfin moi, ouais, il nous a fait un truc mortel, quoi. On est vraiment super contents. Ouais. On s'est fait faire des affiches pour nous, c'est affiché dans nos salons et tout, on est super super contents, quoi.
En fait, on pensait faire un album avec un visuel sympa pour porter l'album, mais c'est l'inverse finalement qui s'est passé.
Ouais,
on a un super visuel, puis on a rajouté de la musique.
Ouais, c'est des fois on a presque cette impression, quoi. Les mecs disent la pochette elle est mortelle. Ouais, t'as écouté? Ah non, pas encore, mais la pochette est géniale. Bah, c'est cool quand même, de toute façon. Nous, on est super contents. Ouais. Voilà, l'ensemble, on est content de l'ensemble, compte tenu du temps qu'on y a passé.
Puis la pochette est bien pensée par rapport à votre musique.
Ouais, hein, ouais. C'est vraiment, il nous a vraiment fait un super truc, on le remercie d'ailleurs. Encore une fois, c'était vraiment Thomas Visual Addiction. Thomas Myriel, allez voir son boulot, c'est super.
On avance, ouais. Le temps passe. Je vous propose d'écouter un nouveau morceau. Donc ça, c'est le numéro. On va écouter le morceau qui clôt l'album,
Heading Anywhere.
Voilà, ouais. On l'écoute puis on en parle ensuite.
Ouais, ça marche.
Donc c'est The Crashing Spitfire.
Thank you.
Crashing Spitfire sur Radio Canu, donc le dernier morceau de l'album, enfin à savoir qu'il y a une piste cachée mais qu'on n'écoutera pas aujourd'hui.
Elle est cachée,
faut aller la chercher. Et donc c'est le morceau
Heading Anywhere.
Vous voulez en dire un mot sur ce morceau?
C'est un morceau sur lequel j'ai commencé à travailler il y a vraiment très longtemps, pour le coup. Pas sous cette forme-là, mais l'intro par exemple de guitare a été faite il y a plusieurs années en arrière. Et là, on la retrouve.
Avec d'autres groupes, en fait.
Avec d'autres groupes, ouais, également. On avait commencé à bosser ça. Et puis, sous cette forme-là, on l'a mise en forme avec les crashings. Et Gitz a posé dessus une mélodie que je trouve vraiment super bien. Donc, on a réussi à aboutir le morceau. Et honnêtement, j'y croyais pas quand je l'ai proposé parce que ça faisait tellement longtemps que je l'avais dans.
Il nous a donné du fil à retordre quand même.
Dans ma culotte. Que, en fait, c'était un petit peu plus compliqué. Je pensais que ça allait être un petit peu plus compliqué, mais ça s'est fait assez rapidement
finalement.
Ça a pris
du temps quand même. On s'est fait quand même plusieurs séances où on a bataillé un petit peu quand même, mais ouais. Ça s'est fait, ouais. C'est peut-être celle qui est sortie là. Plus difficilement quand même.
Ouais, c'est possible. Mais à l'arrivée, je ne parle que pour moi, mais le résultat me fait. Je suis vraiment très content du résultat. Ouais.
Et pourquoi l'avoir choisi pour clore l'album, celle-là, en fait? Il y a une raison particulière, je sais pas.
On a essayé de trouver un track listing pour l'album qui est. Parce que, basiquement, c'est un peu notre set en live, hein, donc on a essayé de faire quelque chose qui soit aussi un peu différent de ce qu'on fait en concert au niveau de l'ordre des morceaux, parce qu'autrement, il n'y a pas énormément d'intérêt. Et puis de voir vraiment ce qui, sur l'album, amène une dynamique différente, et celle-là, par rapport à l'intro avec le pseudo électrocardiogramme,
qui fait à la gratte quand même.
Qui est fait à la guitare, ouais, se prêtait plutôt pas mal à la fin. Après, on a une. Ouais, on a, je sais pas comment. Non. C'était celle qui, pour moi en tout cas.
Ça clôture bien.
Qui clôturait plutôt pas mal, quoi. Avec de la patate, mais un peu une. Je trouve que la mélodie est assez mélancolique quelque part, quoi. C'est un peu mineur, quoi.
Profond.
Donc, C'est-à-dire, comme on est des artistes,
ah oui.
S'exprimer, voilà, donc on a quand même pas mal de choses à dire, comme t'as pu le voir, mais t'as pu l'entendre, mais bref, donc, voilà, donc ça, la structure du morceau aussi se prêtait bien pour la clôture d'album et enchaînement avec une piste cachée, donc on a eu l'idée après.
Ouais, puis tout, enfin, ce que vous semblez, ouais, ce que vous dites, enfin, que ce soit dans un set ou comme pour votre album, l'ordre des titres, les ambiances qui se succèdent, c'est pensé, quoi.
Oui, bah, on essaie de faire les trucs au mieux possible, quoi. On se dit que, alors c'est très bien, voilà, il y a pas un nombre d'exemplaires énorme, on a 100 vinyles, 200 CD, un truc comme ça, enfin bon,
c'est cartes de téléchargement, mettre ça sur les plateformes également.
Voilà, bon, pour en parler là, on peut l'écouter où, votre musique en fait.
Et bah, alors du coup, donc voilà, on a ce support physique CD vinyle, sachant que sur les vinyles il y a une carte de téléchargement pour récupérer l'album en dématérialisé. Mmh. On a des cartes de téléchargement à vendre toute seule d'ici janvier, février, on devrait être sur les plateformes Spotify, Deezer, celle de Gérald, c'est quoi là que t'écoutes toi?
Napster.
Normalement, ouais. On a un truc, voilà, qui va englober tout ça. Bandcamp aussi, il faut que ça passe un peu par un peu d'organisation de notre côté pour avoir un compte en banque, en fait. Une asso.
Ça se met en place, quoi.
On est en train de mettre ça en place.
Ouais, et puis on voulait aussi faire de la promo sur un support physique. Parce que même si, clairement, on fait partie, à mon avis, des derniers qui. Ça fait triper de sortir un CD ou un vinyle. Parce que. Comment dire, la manière d'écouter maintenant est beaucoup plus évidemment digitale. On s'est vraiment fait plaisir, quoi. Et on voulait aussi donner la chance au support.
Non, puis ça correspond quand même le fait de sortir un CD, un vinyle aussi, peut-être surtout la philosophie un peu de votre projet.
Ouais, et puis franchement, moi je fais partie des gens qui encore, si je vais voir un concert et que je kiffe le groupe, j'achète le CD. Ouais, quoi. Je trouve que c'est quand même le meilleur moyen de soutenir les projets.
Parce que
quand on voit les sous que les mecs font sur les plateformes, genre les groupes, c'est pas avec ça qu'ils vont vivre, quoi. Ou alors faut s'appeler Radiohead ou Foo Fighters, mais pour des groupes locaux, les plateformes, ça va pas être une source de revenus, et mine de rien, c'est quand même un peu le nerf de la guerre aussi. Même si nous, c'est pas le but, c'est pas de gagner des sous avec, on veut pas vivre de ça, mais
après le but, c'est quand même d'en refaire un autre.
C'est sur l'idée, quoi. Donc si on peut après financer un peu le projet suivant, évidemment,
c'est toujours intéressant.
C'est sûr que c'est intéressant. Donc et puis il y a ce côté objet, en fait. Moi, je sais que voilà, le côté CD, la jaquette, le machin, j'aime bien.
On est consommateur de vinyle et de CD, donc le fait de faire un album déjà, le projet en tant que tel, évidemment, nous botte, quoi. Mais le fait de l'aboutir avec un support physique était important.
Ok, on va écouter la chanson à présent qui s'intitule Bad Boy. Et donc c'est The Scratching Spitfire, toujours sur Radio Canu.
Come on, bad boy. Come on, son. Come on, son. Come on. Come on.
Up the trip, I am just so sad. Yeah, my fear of the service has been up.
The Crashing Spitfire, pardon, sur Radio Canu avec le morceau Bad Boy. Est-ce qu'on peut vous dire un mot sur ce titre?
Bah, le truc, ouais, l'intro déjà.
De la finesse.
De la
volupté. L'intro, c'est un extrait de Trainspotting.
Ah d'accord. Voilà.
Où, on s'est tapé un délire avec Bruno justement,
ouais,
qui nous a enregistré l'album en disant là, on a commencé à taper un délire là-dessus et il nous a dit ouais. Ça...
Bad Boy, ça me fait penser
ça
à,
penser à ça, la scène
Trainspotting où Big B gagne un pari sur les courses.
Course hippie, ouais. Et pareil, sur le cheval qui s'appelle Bad Boy quoi. Donc on a trouvé ça cool de Trainspotting, ça fait partie des références qu'on a tous.
Ouais.
Voilà. Donc voilà, c'était.
Ça n'a aucun rapport avec
la chanson.
Ouais, la chanson
n'a aucun rapport.
Mais les faits, cool.
Mais voilà, on trouvait que c'était cool. Ça introduisait un peu le morceau quoi.
D'accord. Donc c'est peut-être le morceau le plus péchu de l'album, je pense.
Ouais, quand même.
Ouais.
Ça envoie un peu là.
Ouais, mais tu vois encore, ça reste mélodique, il y a du gros solo, on n'est pas non plus sur du.
C'est méchant, on voit, ça en termes de gros solo, je peux mieux faire.
C'est vrai, je sais que tu peux mieux faire.
Tu donnes la peine, voilà, bon, bah. Ça dégage déjà bien, là.
Avec un peu de travail, je peux mieux faire.
Ouais, je propose qu'on profite du temps qui nous reste pour privilégier la musique. On enchaîne avec un autre morceau. C'est donc le 9e, c'est Overdriven, c'est ça qu'on écoute?
Ouais, Overdriven.
Oui, Overdriven, pardon. On écoute, c'est The Crashing Spitfire. The Crashing Spitfire sur Radio Canu, donc avec le titre
Overdriven.
Un petit mot sur ce titre.
C'est un des premiers morceaux qu'on a fait ensemble. Celui-là, il était très très rapide, puisqu'il a été fait en gros, le 80% du morceau au niveau musical a été fait en 2 heures, je crois.
Ouais, c'est
à peu près ça. Donc pour le coup, celui-là, il est très très vite.
On a fait un clip qu'on peut trouver sur YouTube, sur Facebook aussi.
Ouais. C'est le morceau qu'on a mis en avant par rapport à l'EP. Et puis voilà.
Ouais, on a beaucoup attaqué le set avec ce morceau-là. On trouvait qu'il envoyait bien pour démarrer. Mmh. Et voilà quoi. Enfin, on a voulu aussi le remettre sur l'album parce que alors il est moins, il est plus dans le dans la masse de l'album, on va dire.
Mais les fans l'attendent. Mais...
non, moi nous on l'aimait bien. On voulait le réenregistrer aussi de manière un peu plus voilà,
ouais,
plus costaud quoi.
Oui.
Ok, maintenant on va se quitter sur un dernier morceau qui s'appelle No Pressure, mais avant on va faire bien votre com comme il faut, les The Crashing Spitfire, où on retrouve votre musique, s'il y a des dates, où on vous suit, s'il y a un Facebook.
Il y a un Facebook, il y a un Instagram, il y a un Bandcamp où on peut récupérer l'EP déjà gratuitement. L'album, je pense qu'il va être, on va payer, mais l'EP est gratos. On est sur scaler des dates là, on recherche des dates d'ailleurs, s'il y a des gens que ça intéresse. On en a une en mars a priori sur Fontaine. Ouais. Et on cherche donc des dates, de la distribution éventuellement, parce que mine de rien, c'est quand même aussi ce qui peut faire du réseau. Nous on a envie de jouer, on a envie de défendre le truc, donc voilà. C'est les réseaux sociaux, plus il y aura de likes sur les pages, plus il y a des gens qui suivent et plus ça donne du poids aussi.
Et ne pas hésiter à nous contacter si effectivement vous voulez vous procurer ce magnifique album Brace for Impact en vinyle, en CD, en carte de téléchargement.
Sachant qu'en concert, du coup, normalement, on est plutôt bien élevé, mais on est plutôt sympa. C'est à l'énergie, blague à part. En concert, on essaye d'envoyer vraiment à mort.
On commence à se faire vieux, donc on se ménage aussi, quoi. Mais bon, oui, voilà, on vise beaucoup ça.
Ouais.
L'idée, c'est de se faire plaisir et de jouer au maximum, quoi. Donc, plus il y a de gens qui pourront venir nous voir et écouter l'album, et plus on sera content.
Ok, vous voulez rajouter quelque chose?
Un grand merci à toi.
Merci à toi.
Merci à toi. Merci à
vous d'avoir invité, c'est super cool.
Merci à vous, c'était un plaisir. Merci d'être vous êtes déplacé un dimanche matin jusqu'à Radio Canu.
Avec plaisir.
Et puis on va se quitter donc sur un dernier morceau du disque. Donc c'est le morceau, répétez le titre.
No pressure but mine.
Voilà, donc c'est The Scratching Spitfire.
No pressure, but no medal for second one. Oh my boy, I'm so happy, 'cause you're gonna be the one. We're putting into frustration the holders and ourselves. No pressure, but no medal for second one. You spent 1 point and we were kicking university, and later laughed at all this human shoes. I'm so happy 'cause I know you'll be the best on your school. And the captain of the crew. Oh my boy, I'm so happy, 'cause you're gonna be the one. I'm bringing it to frustrations of holders in ourselves. Not for sure, but no matter for second one. You'll be taller than others, I'm stronger than stronger. I'm for girls and addiction. I hope I grow up for years, you'll be as amazing as me.
Voilà, c'était The Crashing Spitfire avec le morceau
No Pressure But Mine.
Donc voilà, merci beaucoup d'être venu. C'était musique, etc. Première partie avec Crashing Spitfire. Merci d'être venu et à très bientôt.
Je vous renvoie avec le générique, l'interlude de l'émission.